À la une de l'actualité ce matin, un couvre-feu généralisé à 18h. Ce devrait être l'annonce phare du Premier ministre lors de la conférence de presse hebdomadaire en fin de journée. Attendu également de nouvelles restrictions pour les cantines et peut-être les commerces. Toutes les pistes, Agnès, dès le début du journal, après les autres titres.
Laisser le temps de la réflexion a visiblement convaincu, notamment les pensionnaires des EHPAD, à se faire vacciner. Quel regard porte l'écrivaine Fang Fang sur la arrivée des équipes de l'OMS en Chine. Nous serons en direct de Pékin. La mort de Marielle de Sarnez, les politiques de tous bords. Salut d'une femme engagée, courageuse et profondément européenne. Et puis Donald Trump visé par une deuxième procédure d'impeachment. Nous serons en direct de Washington.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous, Léa.
Oui, depuis 5 ans, il sillonne la France avec sa pièce Djihad pour parler aux jeunes. Il en tire un livre comme un musulman en France qui casse les clichés habituels. Sans masquer pour autant la réalité, le réalisateur et dramaturge Ismaël Seydi nous en parle à 7h05.
A tout à l'heure Léa, à 8h20 on se retrouve pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Il dialoguera avec vous, vos questions dès maintenant, le standard vous attend, 01 45 24 7000.
France Inter. C'est désormais le rendez-vous qui rythme nos vies, la conférence de presse du jeudi. À 18h, donc tout à l'heure, le Premier ministre, entouré des ministres de la Santé, de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, de l'Économie et du Travail, dévoilera de nouvelles mesures, car il y aura bien un durcissement des règles. Lundi, Simon Le Baron, c'est justement la présence de Jean Castex, incertaine encore hier matin et confirmée dans la soirée.
Quand le président parle, c'est pour les très mauvaises nouvelles. Le Premier ministre, juste pour les mauvaises, s'amuse un membre du gouvernement. Comprenez, pas de troisième confinement ce soir, mais tout de même un tour de vis national. Il faut des annonces claires et lisibles pour tous les Français, explique un conseiller. Un couvre-feu à 18h dans tout le pays est donc très nettement privilégié. Avec ou sans confinement le week-end, l'hypothèse évoquée ces derniers jours semble écartée selon plusieurs acteurs du dossier. Pas de fermeture des écoles non plus. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, sera bien présent ce soir, sans doute pour annoncer de nouvelles restrictions, un renforcement du protocole sanitaire dans les cantines et notamment dans les tuyaux. Mais le gouvernement maintient pour l'instant sa volonté de laisser ouverts les établissements scolaires. On est dans un entre-deux, explique-t-on au ministère de la Santé. La situation est encore contrôlable, mais si ça repart, ça peut repartir vite. L'exécutif choisit donc de freiner l'épidémie en se gardant sous le coude ce qu'un conseiller appelle le Big Bang du reconfinement.
Renforcement du protocole sanitaire envisagé également pour les commerces où le nombre de clients pourrait être revu à la baisse. Des commerces qui s'organisent, les soldes ayant été décalés au 20 janvier. Les boutiques multiplient les promos et les ventes privées, phénomène déjà connu, mais qui prend de l'ampleur cette année. Reportage dans le quartier Saint-Eustache à Paris, signé Marie-Hélène Héroir.
Jusqu'à moins 50% sur toute la boutique et pourtant elle est loin d'être bondée. Karine Péca, la gérante de Parfois, essaye de garder le sourire.
On a beaucoup de stock, donc on a décidé de faire des promos pour essayer de ne pas tout perdre. On n'aura pas autant de monde que les années précédentes, à mon avis. Depuis le couvre-feu à 20h, ça se sent tout de suite. À 18h, on n'a presque plus personne.
À deux pas, même tarif chez Marie Sixtine. Une seule cliente se balade dans les rayons malgré les promos qui ont commencé hier. Valentina Burgos, la vendeuse, voit dans la journée
maximum 10 personnes quand ça va à peu près bien. Il y a des journées où il y a 2-3 personnes qui viennent. Et depuis hier, on a un petit peu plus d'entrées, donc ça rassure un petit peu quand même au niveau du business.
Du côté des commerçants indépendants, on s'aligne sur les prix cassés de la grande distribution et on s'inquiète beaucoup. Éric Mertz, président de la Fédération nationale de l'habillement.
Est-ce que les soldes auront lieu? Puisque si on était reconfiné un mois, on a le droit de se poser la question, est-ce qu'on fera les soldes? Et là, je crois qu'on ne peut pas empêcher les indépendants de prendre ce qu'il y a à prendre, malheureusement, encore une fois, au détriment de la marge. Ce n'est pas notre modèle économique. Force est de constater qu'on est rentré effectivement en vente privée et qu'on va avoir des difficultés qui vont arriver très très rapidement pour refinancer nos collections à venir.
Comme de nombreux commerçants, Éric Mertz attend avec fébrilité les annonces du gouvernement ce soir.
Et côté chiffres, la pression reste forte avec plus de 23 000 nouvelles contaminations en 24 heures et un taux de positivité qui reste à 6,5%. Côté vaccination, 247 167 personnes ont déjà reçu une première dose. La PHP a décidé de réduire dès aujourd'hui la vaccination de son personnel soignant pour favoriser la vaccination des plus de 75 ans. C'est une information France Inter à retrouver dans le journal de 7h30. Dans les EHPAD, ce n'est véritablement que la semaine prochaine que la campagne va s'accélérer. Le temps de recueillir les consentements et d'acheminer les doses de vaccin. Un temps jugé finalement nécessaire dans de nombreux établissements, comme celui que dirige Eve Guillaume, Lumière d'automne, à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Hélène Chevalier.
Ces doses, Eve Guillaume espérait les recevoir il y a 15 jours. Son établissement faisait partie des quelques EHPAD à avoir réalisé un exercice à blanc la semaine de Noël. Après quelques faux espoirs, la date de livraison lui a finalement été communiquée il y a 2 jours.
Alors on va commencer à vacciner le 26 janvier et le 28 janvier. Et 3 semaines après, on effectuera les rappels pour les 21 jours.
Si cette vaccination est finalement beaucoup plus éloignée que ce qu'elle espérait, la directrice de l'établissement reconnaît que cela laisse un temps de réflexion supplémentaire aux résidents comme aux familles, plutôt bénéfique.
Depuis une semaine, on voit qu'on a des revirements de bord, ou en tout cas que des personnes qui jusqu'à maintenant étaient plutôt dans l'indécision commencent à prendre la décision de se faire vacciner. On a aussi des changements de position de la part des familles, qui est dû d'une part au fait de voir que beaucoup de personnes commencent à se faire vacciner un peu partout sur le territoire.
Et c'est aussi parce que l'équipe a eu le temps de multiplier les supports de sensibilisation.
De par des réunions d'information, des éléments de communication donnés en main propre aux résidents, envoyés aux familles, et puis les échanges qu'il y a eu aussi en bilatéral entre les médecins et les résidents.
Parmi les résidents ou les familles qui se sont déjà prononcés, 75% ont donné leur consentement à la vaccination. Il n'était que 60% début janvier. Eve Guillaume a bon espoir que ce pourcentage augmente encore d'ici 2 semaines, date des premières injections dans son EHPAD.
Dans le même temps, s'engage une course contre la montre face aux variants du Covid-19. L'OMS se réunit en urgence aujourd'hui à Genève, alors qu'une équipe de l'Organisation mondiale de la santé vient enfin d'arriver à Wuhan, en Chine, pour enquêter sur l'origine de la pandémie. La Chine qui annonce ce matin un premier mort depuis 8 mois. Bonjour Dominique André.
Bonjour Agnès.
Correspondante de France Inter à Pékin, vous avez pu interviewer en exclusivité pour France Inter l'écrivaine Fang Fang, auteur d'un journal du confinement très remarqué. Fang Fang qui se félicite ce matin de l'arrivée des scientifiques de l'OMS.
Oui, enquêter sur ce qui s'est passé pour découvrir les tenants et les aboutissements de cette catastrophe, donner une explication au peuple, c'est absolument nécessaire. Voilà la réponse de Fanfan sur l'arrivée des experts de l'OMS à Wuhan. Et c'est d'autant plus important pour la romancière qu'avec le temps, nous dit-elle, tout le monde comprendra que les calomnies et les blessures que j'ai subies ne reposent que sur des mensonges.
Alors, comment vit l'écrivaine Fanfan depuis la parution de son journal « Wuhan Ville Close » ?
Fanfan est écartée de la vie publique. Désormais, je ne peux plus publier quoi que ce soit dans une revue ou un magazine, confie-t-elle. Mes romans ne peuvent plus paraître en Chine et il est impossible que je sois invitée à participer au moindre événement littéraire. Fanfan, dans cet entretien, revient aussi sur le confinement, la période la plus sombre qu'elle ait vécue. Et un an après, pour Fanfan, la vie a repris à Wuhan, mais seulement en apparence. La mentalité des gens a changé, ce qui est mon cas, nous dit-elle.
Merci Dominique André, en direct de Pékin ce matin pour France Inter.
Il est 7h08, beaucoup d'émotions Agnès dans le monde politique à l'annonce du décès de Marielle de Sarnaise.
Cette figure du centre, fidèle compagne politique de François Bayrou, éphémère ministre des Affaires étrangères, a succombé à une leucémie hier, elle avait 69 ans. Maxence Lambrec.
Elle, c'est moi, c'est elle. Cette confidence de François Bayrou en dit long sur ce couple politique singulier, plus de 30 ans de compagnonnage des jeunes giscardiens à l'UDF, du Modem, à l'élection d'Emmanuel Macron. Ce devait être l'apogée de sa carrière. L'affaire des emplois présumés fictifs au Parlement européen rend son passage au gouvernement bien éphémère. François Bayrou et Marielle de Sarnaise avaient le même âge, la même passion européenne. Elle siégea 18 ans à Strasbourg. Le même idéal centriste au-delà du clivage gauche-droite. Cette grande blonde élancée, énergique, au regard bleu intense et à la veste noire, fut de toutes les décisions, de toutes les réunions avec François Bayrou, sa directrice de cabinet au ministère de l'Éducation, alors qu'elle n'était pas énarque, c'était une première, la patronne de ses campagnes présidentielles en 2002-2007. Ces dernières semaines, le maire de Pau était très affecté par l'état de santé de sa complice. Fidèle, courageuse, exigeante, toute la classe politique de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen salue une femme de conviction. Emmanuel Macron regrette une amie, artisane inlassable du centre.
Maxence Lambrec. Aux États-Unis, Donald Trump est désormais désormais le premier président de l'histoire à avoir été mis deux fois en accusation. La Chambre des représentants a en effet voté en faveur de l'impeachment. 10 élus républicains ont rejoint les démocrates et approuvé cette mise en accusation. Bonjour Franck Mathevon.
Bonjour Agnès.
Vous êtes en direct de Washington. Ce vote ouvre donc la voie à un procès en destitution au Sénat, mais ce sera après l'investiture de Joe Biden.
Oui, cette fois, Donald Trump n'est pas certain d'échapper à la condamnation. Il est accusé d'avoir incité à la violence et contrairement à la première procédure dans l'affaire ukrainienne, des républicains ont voté pour. Vous l'avez dit, ils sont 10, un camouflé pour Trump. Le président ne contrôle plus totalement son parti. Parmi ces 10 élus, Dan Newhouse de l'État de Washington, voici ce qu'il a dit hier à la Chambre.
Le président a prêté serment pour défendre la Constitution contre tous les ennemis, à l'étranger et sur notre sol. La semaine dernière, il y a eu une menace sur notre sol, au Capitole, et il n'a rien fait pour l'arrêter. C'est pourquoi, avec le cœur lourd, mais avec une détermination claire, je voterai oui à cette mise en accusation.
10 rebelles donc, mais aussi des républicains qui ont voté contre la mise en accusation, sans épargner Trump dans leur discours. Même si le président conserve beaucoup de soutien, le parti est clairement divisé, si bien qu'une condamnation au Sénat ne semble pas impossible. Même le chef des sénateurs républicains, Mitch McConnell, affirme n'avoir pas encore pris sa décision sur la destitution. Un nouveau feuilleton politique commence donc dans une atmosphère surréaliste ici. Washington est totalement bouclée, déserte. On ne croise que la police et l'armée. La ville est transformée en forteresse à 6 jours de l'investiture.
Feuilleton que nous suivons avec vous, Franck Mathevon, en direct de Washington pour Inter, avec Alexandra Bergel pour les moyens techniques. Peut-on être et avoir été ? Question que se posent les experts handballeurs français, 6 fois champions du monde, et qui traversent une mauvaise passe, éliminés notamment en phase de groupe lors du dernier Euro. Ils débutent ce soir les championnats du monde en Égypte. Guillaume Batin.
Depuis son premier titre de championne du monde en 1995, rarement l'équipe de France n'avait traversé une période aussi difficile, au point de devenir peut-être une équipe lambda ou une équipe qui ne fait plus peur à ses adversaires. Le gardien des Bleus, Vincent Gérard.
Une dizaine de joueurs qui étaient au Final Four de la Ligue des Champions. De dire qu'on fait plus peur, je suis pas sûr que les équipes soient contentes de nous rencontrer, mais je réfute totalement ce terme d'équipe lambda.
Au moins, cette période difficile n'a pas entamé l'ambiance du vestiaire. Quentin Mahé, le demi-centre de l'équipe de France.
L'ambiance, je dirais, elle est bonne, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on baisse la tête. On est l'équipe de France, on est une équipe qualitative qui aura son rôle à jouer, et il faut qu'on arrive à se dépasser un peu plus, qu'on arrive à allumer un peu ce feu, cette flamme en nous, et c'est ça qui m'a un peu manqué. Il faut qu'on se remette en question, tous à titre personnel.
Le nouveau sélectionneur, Guillaume Gilles, trouve des motifs de satisfaction dans le chantier qu'il a entamé il y a quelques semaines.
Il y a plein de choses qui se sont réglées et il faut continuer d'empiler les briques pour que cette phase de jeu redevienne défense plus montée de balle, redevienne un peu la base de ce groupe.
La période dorée des experts est terminée. Et une nouvelle histoire pourrait commencer dès ce soir face à la Norvège.
Guillaume Batin, et j'ajoute Nicolas que l'entretien de Fang Fang avec Dominique André est à retrouver en intégralité sur franceinter.fr.
Merci Agnès Soubiran.